France Culture.
Le journal est signé Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Sébastien Lecornu n'a pas franchement convaincu. Il recevait aujourd'hui les oppositions à Matignon. Pour tenter de les amadouer, il a promis le non-recours au 49-3, une taxe sur le patrimoine financier à gauche comme à droite. C'est la déception, décryptage dans ce journal. La dernière journée du procès des militants de l'aide à mourir d'ultime liberté après les réquisitions hier, du sursis et une interdiction d'exercer pour un médecin à la retraite. Les plaidoiries de la défense cet après-midi. Nous retrouverons Anne Fauquemberg au tribunal de Paris. Également dans ce journal, l'enquête de la cellule Investigation de Radio France sur les Koum-Koum, une fraude qui permet à des actionnaires étrangers de ne pas payer de dividendes avec la complicité de plusieurs banques. La facture du manque à gagner pour les finances publiques s'élèverait à 33 milliards d'euros. Des manifestations d'ampleur en Italie et en Espagne pour soutenir le peuple palestinien et la flottille vers Gaza, dont le tout dernier bateau a été intercepté ce matin par l'armée israélienne. Nous irons à Madrid avec Mathieu de Taillac. Nous serons également en République tchèque où les électeurs sont appelés aux urnes pour des législatives. Les bureaux de vote ont ouvert en début d'après-midi. L'ancien Premier ministre Andrej Babiš, trumpiste, autoproclamé, est donné favori. Sébastien Lecornu recevait aujourd'hui à l'hôtel Matignon une série d'entrevues avec ses oppositions pour tenter d'arrondir les angles pour éviter la censure. Le Premier ministre l'a promis, il ne dégainera pas son 49-3 pour faire passer des textes au forceps à l'Assemblée. Sébastien Lecornu a aussi évoqué une taxe sur le patrimoine financier. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir.
Le Premier ministre a reçu les socialistes et les écologistes qu'il n'a pas vraiment convaincus malgré ses tentatives.
Oui, les rendez-vous des socialistes et des écologistes ont pourtant duré chacun plus de 2 heures, mais à l'issue, tous sont restés sur leur faim. Un Sébastien Lecornu imprécis pour la patronne des écologistes, Marine Tondelier.
Le problème, c'est que tout ce qui nous est dit est conditionné à un équilibre global, en disant on cherche par là, on cherche par là, on cherche par là. Peut-être qu'on pourra faire l'un des trucs, mais pas tous. On doit redemander à Bercy, on doit calculer, on doit voir évidemment avec le socle commun, on doit avec les syndicats, et donc on a quand même la sensation que rien n'est prêt.
Le chef des socialistes, Olivier Faure, lui, considère que ce n'est pas flou, mais que les ruptures annoncées par le Premier ministre ne sont pas au rendez-vous. Certes, il y a la méthode qui pourrait changer avec le renoncement au 49-3, mais sur le fond, aucune main tendue déplore-t-il.
Il ne peut pas y avoir une part de la copie qui reste cachée parce que le gouvernement n'en veut pas. Nous avons bien compris que le président de la République est planté sur ses ergots et considère qu'il y a des débats interdits. Nous considérons qu'il n'y a aucun débat interdit.
Par exemple, une taxe Zucman ou autre qui aurait les mêmes effets. Le Premier ministre s'est redit contre et propose à la place une taxe sur le patrimoine financier qui ne toucherait pas au patrimoine professionnel. Rendement trop limité, le PS n'est pas satisfait. Sur les retraites, le chef du gouvernement a réaffirmé son opposition à débattre à nouveau de la réforme Borne sur les retraites. C'est là aussi une ligne rouge pour les socialistes. En annonçant le renoncement au 49-3 ce matin, Sébastien Lecornu espérait mettre les parlementaires et notamment les socialistes devant leurs responsabilités. Le piège se retourne contre lui.
Si il dit qu'il se met, je reprends ses mots, sous la tutelle du Parlement, il va se mettre sous la tutelle du Parlement de A jusqu'à Z. De Zucman jusqu'à Borne.
Dans le cas contraire, pour toute la gauche, la censure sera inévitable.
Adrien Toffolet. On ne te croit pas. De son côté, lancé Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, en réponse à cette annonce par le Premier ministre du non-recours au 49-3, LFI qui avait décidé de ne pas répondre à l'invitation de Sébastien Lecornu. À droite, ce n'est pas l'enthousiasme pour autant. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Chez les Républicains, ce renoncement à l'article 49-3 est apparu comme une véritable surprise, mais une surprise désagréable.
Bah oui, parce que bon, d'abord pour des gaullistes, qu'un Premier ministre qui se dit est déjà le plus faible de la Ve République se fragilise un peu plus et donne des gages à la gauche, ça ne va pas de soi. Sébastien Lecornu n'aura pas les moyens d'empêcher un débordement du budget, se disent certains députés. Le président du parti et ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a d'ailleurs rapidement dit son inquiétude sur les réseaux sociaux de voir une coalition des démagogues, je cite. Or, l'un des marqueurs LR, c'est la maîtrise des dépenses publiques et l'absence de hausse d'impôts. Surtout, les parlementaires ont l'impression de passer derrière le PS. Voilà plusieurs jours qu'on attend les engagements de Sébastien Lecornu pour la formation d'un gouvernement. Jusqu'ici, on n'a eu que des généralités, se désolent les responsables du parti. Bruno Retailleau attend le retour demain matin du Premier ministre sur la feuille de route souhaitée par le parti, notamment pour l'immigration, le contrôle des visas ou le rétablissement du délit de séjour irrégulier, le travail avec une proposition d'allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC, ou bien encore la sécurité, sans oublier la ligne rouge, pas de recul sur les retraites. À ce stade, le compte n'y est pas, disait hier le patron des LR. Dernier coup de pression avant le week-end, ou vrai doute sur la participation au gouvernement. En tout cas, Bruno Retailleau doit réunir de nouveau demain soir tous les parlementaires en visioconférence. Pas question d'être considéré comme la béquille du macronisme en bradant nos convictions, estime la vice-présidente du parti Agnès Evren. Surtout quand on veut aussi incarner l'alternance.
Merci Nicolas Ballu. À l'extrême droite enfin, Marine Le Pen a parlé toujours au sujet du non-recours au 49-3, d'une annonce plus respectueuse de la démocratie. Après les réquisitions du parquet hier, les plaidoiries de la défense aujourd'hui, dernière journée devant le tribunal de Paris du procès Ultime Liberté, 12 militants de l'aide à mourir jugés depuis 3 semaines pour avoir aidé des dizaines de personnes à acheter du pentobarbital, un barbiturique entraînant une mort rapide et sans douleur. Hier, le parquet a requis jusqu'à 18 mois de prison avec sursis pour la présidente de l'association, Claude Hury, 12 mois avec sursis et 3 ans d'interdiction d'exercer pour le médecin à la retraite, Bernard Sonnet. La procureure a aussi fustigé ces audiences qui se sont transformées, a-t-elle dit, en tribune pour l'aide à mourir. Cet après-midi, au contraire, les avocats de la défense ont plaidé la relaxe ou des dispense de peine. On retrouve Anne Fockenberg au tribunal de Paris.
Quand une loi est injuste, il faut la combattre. La justice est là pour pousser la société, déclare d'emblée Laurence Bédossa, l'avocate de Bernard Sonnet. Nous ne sommes pas avec un truand, mais avec un médecin intègre. Selon elle, il n'y a pas d'infraction, pas d'intention. Bernard Sonnet s'est contenté de transmettre une adresse qu'on peut trouver sur Internet, insiste-t-elle. Pourquoi autant de gens sont venus témoigner en sa faveur, citant tour à tour l'ancien député Jean-Louis Touraine, le philosophe André Comte-Sponville ou encore le docteur Denis Labelle? Vous voulez condamner quoi? Un médecin qui a une action sociale et une réflexion sociétale, ce qui n'est pas si fréquent dans ce milieu médical. Avant de demander la relaxe, elle prend toutefois ses distances avec Ultime Liberté, Bernard Sonnet ayant adhéré très brièvement et ayant toujours défendu la nécessité d'un avis médical avant de donner l'adresse pour se procurer le pentobarbital. Puis c'est au tour d'Arnaud Lévy-Soussan. L'avocat défend 9 prévenus, dont Claude Hury, la présidente d'Ultime Liberté. Il rappelle que ces militants, tous très âgés, auraient pu éviter ce procès en négociant leur peine par une procédure de plaidé coupable, mais ils ont voulu expliquer pourquoi ils se battent depuis des années en risquant leur liberté. Et cette audience a été utile, assure-t-il. Tous les Français savent désormais que des militants sont poursuivis pour des faits qui sont acceptés chez certains de nos voisins. Puis il revient sur le caractère arbitraire des poursuites, 130 personnes interpellées au départ, 12 prévenus à la fin. On a tapé sur les chefs d'antenne, mais pourquoi ne pas avoir dissous l'association, s'interroge-t-il. Elle continue d'exister. Et puis où sont les victimes? Pas la moindre personne ne s'est constituée partie civile, rappelle-t-il. Il demande la relaxe ou la dispense de peine si la relaxe n'est pas retenue.
Anne Fockenberg, c'est une combine qui permet à des actionnaires étrangers de ne pas payer de taxes sur les dividendes. Une astuce qui fonctionne grâce à la complicité de banques françaises. On appelle ça la fraude au koum-koum. Elle dure depuis des décennies et représente un manque à gagner de 33 milliards d'euros pour les finances publiques. Il y a un mois, le Crédit Agricole a fait son mea culpa et a même accepté, pour se mettre à l'abri de poursuites, de régler une ardoise de 130 millions d'euros. Mais qu'ont fait les autres banques? Selon la cellule investigation de Radio France, 12 autres établissements bancaires sont aujourd'hui dans le viseur de Bercy pour cette fraude. Bonsoir Anne-Laure Barral.
Bonsoir.
De la cellule investigation de Radio France, Koum Koum, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment ça marche?
Eh bien, ça veut dire gagnant-gagnant, parce que c'est un peu un jeu de bonnetot, une série d'opérations financières qui permettent à un investisseur étranger de passer ses actions d'entreprise française au bon moment, à une banque, pour qu'elle les lui rende ensuite. Au passage, elle aura touché les dividendes sur lesquels elle n'est pas taxée, alors que l'actionnaire aurait dû en laisser une partie au fisc. Beaucoup de courtiers et de traders ont reconnu avoir pratiqué ces arbitrages de dividendes pour leurs clients étrangers, estimant que c'était légal, comme cet ex-salarié d'une grande banque de la Défense mise en cause dans cette affaire.
J'ai fait des koum-koum de façon très classique. On avait un certain nombre de clients qui nous prêtaient des titres, d'autres banques étrangères, suisses, anglaises. Donc ça se comptait plutôt en millions. On savait que c'était borderline, en traitant des montants aussi importants, ça nous semblait quand même pas fair play vis-à-vis du fisc.
Sauf qu'aujourd'hui, Anne-Laure, une banque a reconnu qu'il s'agissait bien d'une fraude.
Oui, il y a un mois, le Crédit Agricole a accepté de payer une amende pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et pour reconnaître les faits. 5 autres banques sont concernées par les enquêtes du parquet national financier. Société Générale, HSBC, BNP Paribas, sa filiale Exane et Natixis. Pour l'instant, elles contestent les faits, mais nous avons trouvé un document de Natixis faisant la promotion de cette pratique auprès de ses clients étrangers, exemple à l'appui, avec des actions du groupe Total, où l'investisseur ne payera qu'une commission de 2% plutôt qu'une taxe de 15% au fisc français. Un document qui a mis mal à l'aise cet ancien trader à Nice-la-Genève quand il l'a vu.
Ce qui gêne dans ce catalogue, c'est la façon dont le document explique, mais vraiment noir sur blanc, comment on va se partager le gâteau fiscal. C'est une erreur de communication manifeste, c'est-à-dire que ces gens ont cru que ce catalogue allait rester en interne et avec les clients dans un petit entre-soi financier. Moi, j'ai trouvé ce document hallucinant.
Alors, ni Natixis, ni d'autres banques n'ont souhaité répondre à nos questions. La Fédération bancaire française explique que s'il y a des infractions, elles doivent être bien sûr sanctionnées par la justice, mais qu'il n'y a pas de fraude systémique au koum-koum, alors que Bercy a aujourd'hui 12 autres banques dans son viseur. L'une d'entre elles risque même 800 millions d'euros de redressement fiscal rien que pour une année.
Anne-Laure Barral de la cellule Investigation de Radio France. L'intégralité de votre enquête sur les koum-koum est à découvrir sur l'appli Radio France. Les bureaux de vote ont ouvert en début d'après-midi en République tchèque. Les électeurs sont appelés à élire leurs députés. Le scrutin se poursuit jusqu'à demain. L'ancien Premier ministre Andrej Babiš, trumpiste autoproclamé, est donné favori, mais sans être assuré d'une majorité. À 71 ans, ce milliardaire ambitionne ainsi de reprendre les rênes du pays qu'il a dirigé entre 2017 et 2021. L'envoyé spécial de France Culture, Sébastien Baer, est sur place dans un bureau de vote à Prague.
Une école primaire à deux pas de la place Venceslas, au cœur de Prague. À l'étage, deux isoloirs dans une salle de classe. Yaroslava, 76 ans, cabas rouge en bandoulière, était la première à voter tout à l'heure, avec l'espoir d'un changement.
Il y a l'inflation, les retraites trop basses, l'énergie trop chère. Ici, certaines personnes qui font des affaires ont deux voitures, des millions sur leur compte, mais d'autres doivent mendier pour payer leur loyer. Il faut que ça change.
La retraitée a voté pour Andrej Babiš, le candidat populiste qui promet aux Tchèques une vie meilleure. Zdenka n'est pas convaincue.
Je ne supporte même pas d'entendre son nom. Babiš profite des gens et ne s'occupe que de lui-même. Je ne lui fais pas confiance. J'aimerais que les politiques se soucient du pays, de la croissance et non de leurs propres intérêts.
Milan, lui, choisit l'extrême droite, possible futur partenaire de coalition d'Andrej Babiš. La formation réclame un référendum sur la sortie de l'Union européenne.
Certaines réglementations européennes freinent le commerce tchèque. Plusieurs pays qui ne font pas partie de l'UE vont mieux que certains membres. Pourquoi ne pas demander aux Tchèques ce qu'ils ressentent après 20 ans dans l'Union européenne ?
C'est une particularité tchèque. Le scrutin se déroule sur 2 jours. Les bureaux seront à nouveau ouverts demain matin.
Sébastien Baer à Prague. Plus aucun bateau de la flottille d'aide humanitaire Global Summit ne fait route vers Gaza. Le tout dernier navire, le Marinette, a été intercepté ce matin par l'armée israélienne à un peu plus de 42 000 nautiques, moins de 80 km des côtes de l'État hébreu. Au total, ce sont 42 navires qui ont été immobilisés et 450 militants qui se trouvaient à bord arrêtés par les autorités israéliennes. Les avocats de 35 Français sans nouvelles d'eux envisagent d'ailleurs de porter plainte pour détention arbitraire et dénonce l'inaction des autorités françaises. Un peu partout en Europe ont lieu des manifestations de soutien. Soutien à la flottille et au peuple palestinien qui n'en finit plus de disparaître sous les bombes à Gaza. Rassemblement spectaculaire depuis hier à Rome, en Italie, où une grève générale a été lancée. Manifestation également en ce moment à Madrid, où se trouve notre correspondant Mathieu de Taillac.
Il y a eu les étudiants et les lycéens dès midi hier, accompagnés de leurs professeurs, convoqués par les principaux syndicats, et puis le reste des défenseurs de la cause palestinienne le soir, 15 000 à Barcelone, 10 000 à Madrid. Avec un slogan dans la capitale, ils ont lancé l'assaut contre la flottille, tout le monde dans la rue. Et un autre cri entendu dans toute l'Espagne, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce mot qu'a repris à son compte le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, est largement accepté par la population espagnole. Selon un sondage de l'Institut Royal Elcano, 82% des Espagnols considèrent qu'il décrit fidèlement la situation à Gaza. Autant dire qu'en Espagne, si les manifestants dans les rues répondent plus souvent aux appels des organisations de gauche, la sensibilité à la cause palestinienne est largement transpartisane. La droite choisit parfois d'autres mots ou reproche au gouvernement son opportunisme, mais elle dénonce elle aussi le massacre à l'œuvre au Proche-Orient. L'Espagne a reconnu dès mai 2024 l'État palestinien. L'exécutif a pris il y a quelques semaines un décret pour interdire tout commerce d'armes avec Israël et empêcher sa propre armée et sa propre police de s'équiper de systèmes de défense israéliens. La flottille, quant à elle, compte quelques 65 ressortissants espagnols, dont Ada Colau, l'ex-maire de Barcelone.
Mathieu de Taillac, le correspondant de France Culture à Madrid. De son côté, le Hamas a indiqué aujourd'hui avoir besoin de davantage de temps pour examiner le plan présenté par Donald Trump, plan qui vise à mettre fin à près de 2 ans de guerre dans la bande de Gaza, demande accordée par le président américain qui donne au Hamas jusqu'à dimanche 18h, heure de Washington, 2 jours de plus donc, une dernière chance avant de connaître l'enfer, a précisé Trump. Alors qu'elle est suspectée d'être à l'origine des essaims de drones qui sèment la zizanie dans le ciel européen, comme la nuit dernière au-dessus de l'aéroport de Munich en Allemagne, ou encore aujourd'hui au-dessus d'un camp militaire dans l'est de la Belgique, la Russie montre les muscles sur les mers, alerte le service de renseignement militaire du Danemark. Des navires de guerre russes auraient, selon ces militaires danois, suivi à plusieurs reprises des trajectoires de collision, braqué leurs armes sur des bateaux de la marine danoise et perturber des systèmes de navigation entre la mer Baltique et la mer du Nord. La Russie qui a mené une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans plusieurs régions au cours de la nuit dernière. C'est ce qu'a déclaré le ministère ukrainien de l'énergie. Selon Kiev, la Russie a lancé 381 drones et 35 missiles visant les infrastructures énergétiques des régions de Kharkiv et de Poltava dans l'est de l'Ukraine. À Manchester, au lendemain de l'attaque contre une synagogue, l'une des victimes pourrait avoir été tuée accidentellement par la police britannique. C'est la police elle-même qui l'indique. Elle a ouvert le feu pour neutraliser l'agresseur qui avait foncé en voiture, puis armé d'un couteau sur un groupe de fidèles. L'assaillant, âgé de 35 ans, a été abattu. Il n'avait pas d'arme à feu, alors que l'une des deux victimes de la communauté juive a été mortellement blessée par balle. Une génération Z en ébullition au Népal, au Maroc ou à Madagascar, où les manifestations ne faiblissent pas face à cette colère alimenté par la pauvreté et la corruption. À Madagascar, le président hausse le ton. Andry Rajoelina a estimé aujourd'hui que ces manifestations qu'il estime manipulées visent à provoquer un coup d'État pour détruire le pays. Sarah Teto est notre correspondante sur place.
Dans une vidéo d'une vingtaine de minutes, le président malgache s'adresse à sa population et donne pour la première fois sa lecture de la situation.
Le 25 septembre, je n'étais pas là, j'étais à l'ONU. L'opposition le savait et c'est pour ça qu'ils ont mis en action ce mouvement qu'ils avaient toujours voulu mener dans ce pays. Ce qui s'est passé, c'est simple, ils ont utilisé la génération Z et ont tout fait pour que cette génération Z dirige le mouvement. Les politiciens ont tout fait pour profiter, pour abuser et pour programmer un coup d'État.
Sans jamais les identifier clairement, le chef de l'État pointe aussi la responsabilité de nations étrangères.
Il y a des associations, des pays, des agences qui ont payé ce mouvement pour prendre le pouvoir, pas par des élections, mais par la force, et pour prendre nos richesses souterraines, comme dans d'autres pays africains.
Dans un communiqué, en réaction à cette allocution, la Gen Z s'est dite inquiète pour la santé mentale du président. Nous déplorons votre mépris pour les jeunes malgaches, mais en patriotes sensés et respectueux des lois, nous vous laissons une chance, écrivent-ils. Revoyez nos dernières revendications et souscrivez-y. En clair, démissionnez.
Sarah Tetto, la correspondante de France Culture à Madagascar. Il aura fallu attendre 1400 ans. Pour la première fois de son histoire, une femme a été nommée grande patronne de l'église d'Angleterre. Sarah Mullally a été nommée archevêque de Canterbury aujourd'hui. Elle est aussi sacrée chef de la communauté anglicane qui rassemble 85 millions de croyants dans le monde. Des nuages et de la pluie, c'est le menu météo dans la moitié nord avec des passages pluvieux et venteux, giboulées prévues sur le nord-ouest. Plus au sud, c'est un temps plus sec, mais de plus en plus voilé sur le Languedoc, PACA et la Corse. C'est la fin de ce journal. À la réalisation, c'était Jean-François Braun. Ludovic Auger était à la technique.